L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sourdrille.
Bonjour, pour la deuxième journée, nous allons parler aujourd'hui de ces abus sexuels et cette question particulière aujourd'hui, si Dieu était là, pourquoi ces choses se sont passées? Et si Dieu n'a pas empêché certains actes que nous avons pu subir, nous savons que ce Dieu saura juger l'auteur ou les auteurs de telles actions. Aujourd'hui encore, nous allons avoir Eric et Rachel Dufour en capsule, tout à l'heure dans quelques minutes. Je vous rappelle qu'ils sont thérapeutes, ils sont sexologues, conseillers conjugaux et pasteurs. Ils ont beaucoup, beaucoup d'expérience dans ce domaine puisqu'ils ont su aider énormément de personnes qui sont passées, qui ont subi l'abus sexuel. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle histoire d'un viol, encore donc dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Cette histoire se trouve dans le livre du juge. Et il s'agit là, hier on a parlé d'un viol d'un frère envers sa sœur et comment cet homme qui est entre guillemets soi-disant amoureux, et on sait que ce n'est pas l'amour puisque l'amour ne fait pas de mal à son prochain, va être pris d'une espèce de passion et d'oppression qui va travailler dans ses pensées et qui va le rendre fou et qui va l'amener à cet acte et cette tragédie, le viol de sa sœur. Il va coucher avec elle comme s'il l'aimait, entre guillemets, et il va la rejeter comme si c'était une chose ou un objet. Et il va lui dire de se taire, de fermer la porte comme si cette chose n'était jamais arrivée. Et son frère va lui dire à elle aussi de se taire et de ne pas parler et de ne pas prendre la chose à cœur, comme s'il était possible de ne pas prendre une telle chose à cœur. Et c'est parfois, malheureusement, ce qui est arrivé dans les cercles familiaux. J'ai dit hier que plus de 75% de ces actes, de ces crimes qui sont commis, le sont dans le cercle familial. Le cercle familial est malheureusement souvent une prison pour ceux qui subissent de telles choses. Et en réalité, cet homme et ce frère qui disaient de se taire avaient lui-même nourrit la colère et la haine contre celui qui avait fait le mal jusqu'à le tuer. Aujourd'hui, il s'agit d'un viol et un viol collectif. Vous avez peut-être été victime de ce genre de choses, un viol collectif où plusieurs personnes se sont mises ensemble pour abuser de vous. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans une soirée, quel que soit où ça s'est passé, ce genre de choses arrive. Malheureusement, quotidiennement. Il est écrit, pendant qu'ils étaient en train de se réjouir, les hommes de la ville, hommes mauvais, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme qui était le maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous couchions avec lui. » Un homme avait reçu dans sa maison un visiteur et voici que la ville et les gens de la ville entourent cette maison. Le maître de maison se présenta à eux et leur dit « Non, mes frères, ne faites pas de mal. Je vous en prie, puisque cet homme est entré chez moi, ne commettez pas cet acte odieux. » Et là, cet homme va dire quelque chose de complètement fou, qui nous dépasse totalement. « Écoutez, j'ai une fille vierge et cet homme, il a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. » Parfois, malheureusement, il y a un complice. Dans les histoires de viol et d'abus, il y avait un complice. Parfois, quelqu'un connaissait et savait la situation et n'a rien dit ou fait pour que cela ne se reproduise plus. Parfois, des personnes sont vendues comme des esclaves sexuels. Il va leur dire, ne commettez pas sur cet homme un acte aussi odieux, comme s'il était moins affreux de le faire sur une femme. Ces hommes ne voulurent pas l'écouter, alors le Lévite prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils eurent des relations avec elle. Ils la violèrent toute la nuit jusqu'au matin. Puis, au lever de l'aurore, ils la renvoyèrent. Au petit matin, cette femme alla s'écrouler à l'entrée de la maison de l'homme qui hébergeait son mari, et elle resta là jusqu'à ce qu'il fasse jour. Et on peut se poser la question, mais que faisait cet homme? Où était son cœur? Alors, il est clair que culturellement parlant, la place de la femme pour les personnes qui n'étaient pas éclairées par Dieu était très particulière. Selon Dieu, Dieu a toujours voulu l'égalité dans le respect de la femme et également de l'homme. Dieu aime l'homme. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'a jamais supporté la violence. Dieu n'a jamais encouragé la violence. Dieu a toujours condamné la violence. Et il y aura un jugement pour ceux qui ont commis de tels crimes et qui ne se sont pas repentis de leurs œuvres. Toute la nuit, il va rester dans la maison. Et quand ces hommes partent, il reste encore dans la maison. Certainement, il s'est endormi. Le matin, son mari se leva, parce qu'en fait, il s'est endormi. Ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Et il y a des personnes qui sont là dans la famille, parfois des mamans qui savent que la chose se passe. Et elles sont là comme ce lévite endormi. Et on peut se poser la question, et c'est une double peine. C'est un double traumatisme. J'ai été abusé par cette personne, parfois mon père, et en même temps, ma mère ne dit rien et ne fait rien. Et cela amène la victime même à se culpabiliser, à se dire, mais finalement, c'est normal. Ou finalement, je l'ai cherché, on en a parlé hier. Non, vous n'étiez pas responsable. Et parfois, la mère qui savait que cette chose se passait, ou le frère qui savait, ou la sœur qui avait vu, est là comme ce lévite endormi. Ne sachant pas quoi faire, parfois, ne sachant pas comment réagir, elle devient complice de cet acte criminel. Le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici que la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi, allons-nous-en. » Et elle ne répondit pas. Et là, on voit vraiment ce manque profond de compréhension. Comment des personnes peuvent se sentir incomprises. Et c'est aussi pourquoi elles ne répondent pas, elles ne parlent pas, elles ne communiquent pas. Parce qu'en retour, elles ne trouvent aucune compréhension. Il lui dit simplement, eh bien vas-y, lève-toi, allons-nous-en. Et vous êtes peut-être cette personne qui avait parlé à un moment de cette situation à quelqu'un de votre famille ou à une amie. Et la personne vous a dit bêtement, bien avance, oublie. Combien culturellement encore aujourd'hui dans certains pays, on dit que ce n'est pas si grave et il faut tourner la page, il faut continuer, il faut avancer. Dieu ne fait pas cela, il ne cache pas ses yeux, et même si Dieu était là et qu'il n'a pas empêché que cette chose arrive. Dieu est présent aujourd'hui pour guérir votre cœur, pour vous libérer entièrement, et il jugera et il condamnera ces personnes ou cette personne qui vous a fait du mal. Et vous pouvez être assuré que le juste juge, qui a à la fois donné un libre arbitre à l'homme de pouvoir faire le mal et le bien, mais qui lui a dit « Choisis le bien afin que tu vives », aura une conséquence et un jugement pour tous ceux qui ont préféré le mal, et ils seront jugés selon leurs œuvres. Alors son mari l'a mis sur son âne et partit pour retourner chez lui. Arrivé chez lui, il prit un couteau, s'empara de sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Il y avait 12 tribus et il a découpé son épouse en 12 morceaux pour l'envoyer en disant « Mais ce n'est pas normal, faites quelque chose !» Parfois ceux qui entendent, malheureusement, et c'est aussi l'image ici du mari, de celui qui entend, Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui entendent ne sont pas là pour guérir et recoller les morceaux. Mais ils sont là encore. Ils font encore plus mal par leur réaction. Ils étaient censés nous aider. Ils étaient censés nous supporter. Mais c'est eux qui nous coupent en morceaux. C'est eux qui donnent le coup fatal. Et nous plongent dans un silence, un désarroi, un chaos, une désolation profonde. Un gouffre dans lequel on a l'impression de ne pas pouvoir sortir. Dieu dit, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle sur un feu de charbon et qui fabrique un instrument de guerre de sa façon. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Job, il s'est exprimé et il a dit, il a parlé du gouffre dans lequel il était. Il dit, les liens de la mort m'avaient entouré. Il dit, oh Dieu, fais quelque chose. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, tenez conseil et donnez votre réponse. Ceux qui vont recevoir ces membres vont se lever et vont éliminer toutes les personnes qui ont commis de telles actions. Il faut prendre la chose à cœur en tant qu'homme qui entend, et certains, vous n'avez pas été vous-même victime d'un abus, mais on vous en a parlé. Il faut prendre, oui, il faut prendre la chose à cœur. Et vous qui avez vécu cela, il faut aussi en parler à Dieu en tant que victime. La justice de Dieu agira, et celle des hommes doit également agir, même si elle le fera souvent, de façon imparfaite. La justice divine est différente de la justice humaine. Dieu juge parfaitement. Et si on ne peut pas répondre parfaitement à cette question, bien si Dieu était là, si Jésus était là quand ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé? On peut arriver à cette question de Job et ses amis et ses frères qui essaient de comprendre le pourquoi, qui essaient de l'accuser et de faire de lui un responsable. Et finalement, à la fin, Dieu va poser 70 questions à Job pour lui montrer qu'il n'a pas compris. On ne peut jamais placer Dieu comme étant le coupable alors qu'il est le juge. Mais Dieu est un Dieu d'amour et de compassion. Et ses compassions ne sont pas épuisées. Son amour, ses bontés ne sont pas à leur terme. Et s'il y a eu une nuit de douleur, de larmes et de cris, il y aura demain un matin ensoleillé. Le soleil de justice va se lever dans votre cœur par le Saint-Esprit et la paix vous sera donnée à nouveau. La joie remplira votre cœur et votre esprit. Une joie nouvelle viendra et se lèvera sur vous. Une pluie bienfaisante au nom de Jésus-Christ descendra sur vous et vous transformera. Dieu dit à propos de son peuple qui a été en Égypte 400 ans esclave, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Dieu dit, « Je connais tes douleurs. » Et Dieu dit, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un pays où coule le lait et le miel. » Dieu dit, « J'ai entendu, je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. » Si Dieu n'est pas descendu au moment où cette chose s'est faite, je peux vous assurer qu'il descend maintenant et qu'il est descendu d'ailleurs une première fois en son Fils Jésus-Christ qui est descendu et qui a lui-même été frappé, qui a lui-même subi les coups. Comme on va l'entendre maintenant de Eric et Rachel qui vont nous partager ces choses dans cette capsule d'environ 6 minutes.
C'est le deuxième volet de cette semaine sur l'abus sexuel et c'est peut-être la question qui est la plus compliquée parce que dans le monde chrétien, évidemment, on sait que l'Esprit de Dieu est toujours avec nous, que Dieu est toujours présent à nos côtés. Et Jésus était là. Quand ça s'est passé, alors pourquoi? Pourquoi a-t-il permis...
Pourquoi n'a-t-il pas arrêté?
Voilà, pourquoi ne s'est-il pas interposé? Et ça, c'est une... Il faut accepter le fait de reconnaître, et on va le dire tous les deux en tant que pasteur, qu'il y a des questions qui n'ont pas de réponse ou qui n'ont pas de réponse facile. Il y a des personnes qui vont être miraculeusement gardées, et puis pour d'autres, malheureusement, bien les choses vont se produire et l'abus sexuel va avoir lieu. Et il faut d'abord reconnaître qu'on n'a pas toujours de réponse. On n'a pas toujours de réponse. Et quand on n'a pas de réponse, quand on ne comprend pas pourquoi Dieu n'est pas intervenu, pourquoi Dieu n'a pas fait quelque chose, quand on ne sait pas et quand ça n'a pas de sens, quand l'absence de Dieu n'a pas de sens dans notre vie alors qu'on lui a donné notre vie, il faut se souvenir alors de quel est le cœur de Jésus. Et que le cœur de Jésus ne peut pas nous mentir.
La chose dont on peut être sûr, c'est que ce n'était pas le plan de Dieu. Cet abus que tu as subi, cet abus que dont tu as été témoin peut-être, ce n'était pas le plan de Dieu. Malheureusement, de nos jours, on vit dans un monde où le péché, un monde déchu, où le péché domine, et Dieu n'arrête pas tout le mal. En fait, il est là, pour l'instant, sur cette terre, avec une grande dominance.
Le mal, je veux dire,
le mal est là, sur cette terre, avec une grande dominance, et la main de Dieu n'arrête pas tous ces événements qui sont dramatiques, mais il ne les veut pas. Il ne veut pas le mal. Et chacune de tes larmes, il les a collectées. Il a pleuré avec toi. Il pleure encore aujourd'hui sur les conséquences de ce que tu as subi dans ta vie. Et il était là pour te consoler. Et il est là pour te restaurer. Et il veut être là, faire partie de ton chemin, pour que tu ne restes pas prisonnière de ce mal, prisonnière ou prisonnier de ce mal que tu as subi.
C'est vraiment douloureux. On est dans un monde où on se dit souvent, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal? J'aimerais vous proposer, c'est pas juste un débat théorique, de se dire, mais en fait, pourquoi plutôt est-ce que le bien existe? Parce que notre monde est déchu, il est sous la puissance et l'emprise des ténèbres. Dieu est omnipotent, il a toute la puissance qu'il désire, mais il nous a laissé aux êtres humains un libre arbitre. Et on le sait, les hommes utilisent bien mal leur libre arbitre pour tourner leur dos à Dieu, pour aller dans des endroits et dans des directions que Dieu ne veut pas pour eux. Et bien le péché complique toujours tout. Et en fait, c'est vrai qu'il faut se poser la question, mais pourquoi le bien existe dans une telle circonstance de douleur, de souffrance, de guerre, de viol, d'abus, etc. Eh bien, malgré tout, il aurait été plus facile à Dieu de tout rejeter d'un revers de la main, de nous détruire tous, mais ce qu'il veut, c'est que nous soyons sauvés, que nous parvenions à la connaissance de la vérité et que nous soyons sauvés en Jésus-Christ. Donc, il a envoyé Jésus pour vivre dans le monde, au milieu de nous, et nous dire qu'il y a un message, malgré la souffrance, il y a un message d'espoir, il y a un message d'espérance et de délivrance de l'état des choses dans lequel on vit. C'est à cela qu'il faut réfléchir et se dire, mais en fait, il y a une possibilité malgré ce qui est arrivé, parce que ce n'est pas ce que Dieu voulait. Et j'aimerais vraiment insister sur le fait que quand on est aux limites de ce que l'on peut comprendre, et on ne peut pas tout comprendre, on sait que de l'autre côté, dans l'éternité, on aura la réponse à ces questions qui sont restées avec des pourquoi sans compréhension. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons et ce que je vous encourage à faire, quand on est en but à une question extrêmement compliquée qui n'a pas de réponse et qui amène en nous des sentiments d'indignation, de colère, de rejet, dit mais pourquoi, si tu existais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis ça? Rappelons-nous ce que Jésus a vécu. Pour lui non plus, il n'a pas été épargné. Il a traversé les coups, il a traversé le rejet des siens, il a été calomnié, il a été maltraité physiquement et il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et ce que je sais, c'est qu'à la croix, il n'a pas menti, il n'a pas triché. Il est resté de longues heures sur la croix alors qu'il aurait pu raccourcir ce moment-là. Et j'aimerais vous rappeler peut-être un détail dont on ne parle jamais. C'est que les Romains n'étaient pas comme les peintures le montrent toujours Jésus avec un linge qui cachait son intimité. Les Romains n'avaient pas cette gentillesse. Quand ils crucifiaient nu, Jésus était exposé, a été humilié dans son corps. Il était crucifié aux portes de Jérusalem, c'est-à-dire là où toute la foule pouvait aller et venir et pouvait le regarder. Il était calomnié là et humilié dans son corps et dans sa nudité, offert en spectacle. Et je pense que si certains d'entre vous se sont sentis humiliés dans leur corps à cause de l'abus, sachez que Jésus a porté lui aussi cet abus dans son corps en étant calomnié, moqué, regardé, humilié, exposé au moment de la croix et qu'à aucun moment il n'a cherché à éviter cela. Et je pense que pour toute victime, c'est important de se rendre compte que notre Sauveur Jésus-Christ est passé par des tourments similaires à ceux que vous avez connus.
Et donc, il n'y a pas de réponse facile à cette question, mais nous voulons vous encourager à la poser à Dieu directement. Dites-lui votre souffrance, votre colère. Dites-lui à quel point vous avez été déçu, qu'il n'intervienne pas. Dites-lui tout ce qu'il y a dans votre cœur. Il est tout à fait capable de l'entendre, il le voit. Ça va vous faire un bien fou d'amener toutes ces questions sans réponse à Dieu. En tout cas, on prie pour vous, pour cette étape tellement importante.
Et Dieu vous aime, il est un papa. Si vous avez des enfants, vous savez très bien que parfois des enfants ne comprennent pas quelque chose et ça n'empêche pas un parent d'aimer. Vous pouvez aussi être en colère contre Dieu et le lui dire. Et ça ne l'empêchera jamais de t'aimer et de, comme Rachel l'a dit, de venir vers toi pour te donner sa réponse, son réconfort, par sa présence. C'est déjà la chose qui le plus peut nous amener une guérison quand on a été victime d'abus. Cherchez le réconfort du Seigneur.
Que Dieu vous aide.
Que Dieu vous aide, oui.
Oui, comme l'ont dit Eric et Rachel, vous pourriez même être en colère contre Dieu et Dieu vous pardonnerait. De tels actes, de tels traumatismes nous plongent dans la confusion et des questionnements profonds, même parfois sur la nature de Dieu. Mais Dieu est amour. Je veux le répéter, il jugera l'auteur de ses crimes. Le Seigneur dit dans le livre de Jacques, vous avez vécu dans les voluptés, dans le luxe, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, il ne vous résiste pas. Et Dieu appelle ses serviteurs à prendre patience, parce que celui qui juge se tient devant la porte. Il y aura un jugement. Et nous pouvons le voir dans l'Ancien Testament, il y a eu un jugement pour ces personnes qui ont commis ce viol collectif. Il y a eu un jugement et il est passé à travers les hommes, ce jugement. C'était un jugement humain d'abord, de cet homme qui a violé sa sœur. Il y a eu un jugement pour le pharaon qui a voulu coucher avec Sarah. Le texte ne nous dit pas s'il a été jusque-là. Il est possible qu'elle ait été mise, c'est ce que je pense peut-être, dans un harem comme à l'époque. Et on sait qu'à cette époque, les femmes étaient mises là et elles pouvaient rester pendant 12 mois comme à l'époque. Dieu, ce roi Assuérus qui a mis Esther pendant 12 mois à se préparer. Il est possible qu'il ne l'ait pas encore touché, mais en tout cas, même s'il ne l'avait pas encore touché, Dieu a commencé à frapper l'Égypte et à frapper Pharaon. Abraham va faire quelque chose de terrible. Par peur de perdre la vie, il va dire à sa femme, eh bien, tu diras que c'est ma sœur, prêt à donner sa femme. On connaît Abraham comme le père de la foi, mais on oublie parfois cette action qu'il a posée. Il y a des cas encore plus terribles où les parents prostituent leurs enfants pour obtenir de l'argent. Et on va prendre la femme d'Abraham et il va recevoir de l'argent. Mais l'Éternel va frapper le pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Il n'était pas encore Abraham, il était à l'époque Abram. Concernant le viol de Dina dont j'ai parlé rapidement hier, ses deux frères vont tuer le violeur. Et quand leur père va leur faire un reproche, il va dire « Mais est-ce qu'on va traiter notre sœur comme une prostituée ?» Les jugements humains ont leurs limites. Les jugements humains sont injustes. Dieu juge parfaitement et avec justice. Les textes bibliques sur la violence sexuelle se présentent toujours comme avocats de ceux qui en ont été victimes. Il ne laisse pas les auteurs s'en tirer en silence, mais il les nomme, il désigne leurs actes. Et même si parfois, lorsqu'on lit les textes bibliques sur les viols, on peut imaginer que Dieu est absent. Non, Dieu n'est pas absent. La façon dont ces textes sont écrits montre que Dieu met à la lumière ces choses et les condamne. Et dans l'histoire de Joseph, on peut se poser la question, mais où était Dieu dans l'histoire de Joseph ? Joseph a été mis dans cette citerne, Joseph a été vendu comme un esclave, Joseph a été mis dans cette prison, il a été accusé injustement d'avoir voulu violer même une femme. Parce que parfois, il y a aussi des fausses accusations. Et on peut se poser la question, mais où était Dieu? Et comment Dieu a pu-t-il laisser faire cette chose? Mais j'aimerais dire que Dieu était là tout au long. Et c'est grâce à Dieu qu'elle a pu être vendue comme esclave. Parce que s'il n'avait pas été vendu comme esclave, il serait mort au fond de cette citerne. Et c'est grâce à Dieu qu'il a pu sortir de cette prison dans laquelle on l'a mise. Et c'est grâce à Dieu que même cette femme qui l'a accusée injustement d'un viol, alors que c'est elle-même qui a voulu le violer, bien Dieu a été juste. Et Dieu a fait de ce Joseph qui a subi le malheur, la condamnation, le deuxième en Égypte. Et j'aimerais dire, de la part du Seigneur, que Dieu va relever ta tête. Et si tu acceptes aujourd'hui de ne plus regarder Dieu comme l'auteur de ces choses qui se sont arrivées, comme le responsable ou comme l'accusé, et qu'aujourd'hui, tu peux t'approcher du Seigneur avec larmes, oui, et avec foi. La bonté et la miséricorde de Dieu se manifestera encore envers toi et agira pour te guérir. On ne peut pas répondre parfaitement à toutes les questions, mais nous savons que Dieu est celui qui était présent tout le long et après de la vie de Joseph et dans ta vie. Il est là et j'aimerais que tu puisses faire cette prière pour terminer alors qu'on va se retrouver demain. Dis-le avec moi à haute voix. Par la foi, dis-le. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que sur la croix, tu t'es livré entièrement à tes bourreaux comme un sacrifice pour mon salut. Je ne comprends pas, mais je regarde à toi, ma victime expiatoire, toi qui as pris ma place. Jésus, je regarde à toi. Tu as été violenté. Tu as souffert jusqu'à la mort, injustement, toi qui n'avais jamais péché. Et je viens à toi aujourd'hui. Pardonne-moi d'avoir regardé ce que tu as fait, de t'avoir regardé comme l'accusé. Tu es de mon côté. Tu m'aimes. Guéris mon cœur. Amen. Le Seigneur va le faire. Il va guérir votre cœur. Il va plonger votre cœur dans un fleuve d'amour. Il va vous toucher et il va vous rétablir. Et il va vous amener dans ce pays où coule le lait et le miel. Ne ratez pas notre émission de demain, on se retrouve demain.
Retrouvez toutes les émissions de Prières Inspirées sur emcitv.com.